Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Nous sommes sur le 92.1 pour, comme chaque mois, le rendez-vous vidéo ludique qui s'appelle Dans le rétro. C'est l'émission que j'anime chaque mois, mais pas seul, parce que j'aime bien avoir des invités, avoir des gens autour de moi. Et aujourd'hui, j'ai Tiffen.
Salut !
Tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Mais oui, très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une disposition un peu différente de celle qu'on a essayé les dernières fois.
Oui, on était autour d'une table en train de parler. Là, on est debout au milieu du magasin en pleine journée.
En pleine journée, le magasin est ouvert, il se passe des choses, il y a des gens qui regardent des jeux vidéo, qui viennent vous demander des conseils.
De temps en temps, ça arrive. Pour l'instant, c'est un peu calme, mais bon, ça va bouger.
Oui, bon, c'est le début de l'après-midi, il faut que les gens
aient
envie de bouger de chez eux. Dis-moi un petit peu, Tiffen, je voulais voir un petit peu, cette émission, cette fois-ci, on va essayer de faire un peu plus du personnel et un peu moins ciblé sur un jeu précis. Je voulais voir un peu de votre côté, comment ça se passe au magasin New Game Plus, c'est quoi les news, c'est quoi les infos?
Bah écoute, tout va bien, on évolue comme il faut, on avance comme on peut, on fait pas mal d'événements. Notamment hier, on a fait une séance dédicace pour un jeu qui s'appelle Off avec son créateur qui s'appelle Mortis Ghost, qui fait partie de nos clients et qui vit dans le quartier ici. Donc on travaille beaucoup sur des choses locales, n'est-ce pas? Le circuit court, tout ça.
Ah oui,
mais
aussi court que le chemin pour lequel viennent les boissons dans le frigo d'ailleurs.
Exactement, car on travaille beaucoup, on travaille beaucoup avec des brasseries locales également. J'ai oublié le nom.
Non, t'inquiète. Mais du coup, tu disais hier événement avec du coup la sortie physique de Off.
Oui,
c'est ça.
La sortie physique de Off, qui est un jeu qui a inspiré Toby Fox, donc le gars qui a créé Undertale, donc Undertale qui est une œuvre majeure du RPG indépendant
tout à fait
ces dernières années, et il était inspiré par Off, et donc Toby Fox a aussi travaillé sur la bande son qui a été refaite, il y a eu des petits ajouts, etc. Donc c'est vraiment une version peaufinée de ce qui était sorti à l'époque. Et nous, on est super fiers de pouvoir justement proposer déjà le jeu en physique ici, qui a été édité par Fangamer, et d'avoir pu faire signer Mortis pas mal d'exemplaires que les gens se sont procurés chez nous. Et avoir rencontré cette communauté qui est quand même assez cool, quoi.
C'est l'occasion quand même pour des personnes qui sont... qui sont attachés à une œuvre en particulier, de se retrouver quelque part ici. Donc vous avez accueilli ces événements, ouais. de rencontrer aussi la personne qui a créé une œuvre qui leur a peut-être qui leur a parlé,
qui font partie de leur vie carrément, parce qu'il y a des gens qui sont marqués par ça. Et nous, ça rejoint complètement nos objectifs de créer une communauté, un endroit où les gens se retrouvent autour de ce qu'ils aiment. Et que ce soit Off, que ce soit des concours ou des tournois qu'on peut organiser, notamment on a fait un tournoi avec la Boxing Factory qui est ici à Saint-Gilles, donc c'était marrant, les gens s'entraînaient, il y avait un tournoi de Tekken 8.
Il y avait la salle de boxe, à côté il y avait le match de boxe sur l'écran.
Il y avait l'écran dans la salle où il y a le tournoi qui se déroulait, c'était assez drôle, mais en fait on veut briser un petit peu ce côté, le jeu vidéo c'est chacun dans son coin, et en fait non, ça permet aux gens de se retrouver autour de jeux et d'événements, quoi. Donc c'est en tout cas Paris réussi pour nous.
Parfait.
On peut continuer dans cette voie-là.
Oui, parce qu'en plus, ça fait déjà presque 2 ans maintenant que vous faites
bientôt,
ça.
Bientôt,
oui.
Et oui.
Et ça fait partie des événements qui vont peut-être arriver. Mais pour le moment, on garde ça sous le tapis.
Exact.
Peut-être parler de la Pixel Days à laquelle vous allez assister, où vous allez pouvoir poser aussi vos jeux, votre expertise.
On aura un stand à la Pixel Days, donc c'est-à-dire qu'on va vendre des jeux là-bas, on va représenter le magasin, on va rencontrer des clients de toute la Belgique et de toute la France, et des gens avec qui on va pouvoir parler de ce qui nous anime, de notre passion et de nos projets. Peut-être rencontrer de futurs partenaires pour les projets également. Donc c'est très important, c'est le salon le plus important culturellement parlant pour le jeu vidéo en Belgique, en tout cas, même voire en francophonie européenne, parce que il y a des gens qui viennent de très loin et des gens qui participent, les invités sont quand même assez quali. Donc ça vaut le coup d'y aller. En plus, c'est à la Louvière, c'est 10 euros l'entrée, c'est vraiment très accessible, que ce soit en train, que ce soit sur place, etc. Et c'est vraiment la grosse réunion des amoureux du jeu vidéo, quoi.
Voilà, trop bien. Bah écoute, on se donne rendez-vous. Il me semble que c'est le 2 et le 3 mai, c'est ça ?
Ouais, premier week-end de mai.
Trop bien. Parfait. Bah écoute, pour continuer l'émission, moi j'ai préparé des petites questions.
Okay.
Donc c'est un peu la manière dont je veux rythmer ce nouveau format. Ouais. C'est.
Je vois qu'il y a un chapeau. Là.
Voilà, il y a mon Bob, mon fameux Bob.
Attention, mon père s'appelle Bob.
qui ressort. ah, je connais, il y a Bob Razowski aussi.
Ouais,
aussi
alors, ouais.
Mais donc c'est plein de petites questions où je me dis qu'elles sont assez larges pour normalement nous parler chacun chacune. Et l'idée, bah, c'est vraiment d'y répondre de manière personnelle avec son vécu, son vécu principalement de joueur ou de joueuse, mais aussi... toi, de ton côté, ton vécu parfois en tant que professionnel du milieu. Donc, je t'invite
à secouer.
Je secoue le Bob. Et toi, tu sors un papier de là. Je secoue le Bob.
Tout va bien. Tant que c'est pas un Z à la place.
Et je te laisse lire à voix haute, bien sûr, cette question que les gens ne voient pas.
Je sais pas lire.
Zut.
Alors, le jeu vidéo qui n'aurait jamais dû exister. Ça, c'est pas cool. Parce que.
C'est une question que certains gens. C'est pas cool, d'accord, vas-y.
Parce que, vu que pour nous, peu importe ce que tu aimes comme jeu, tu es le bienvenu et tu fais partie de la communauté.
Ouais.
Un jeu qui n'aurait pas dû exister, c'est pas. Chaque jeu a son mérite. Le mérite d'exister, c'est toujours un pas vers quelque chose d'autre, vers une amélioration. Une découverte, un jeu qui peut être très nul de base, que quelqu'un joue, va dire « Ah, c'est nul », et en fait, il va dériver sur autre chose, ça va lui apporter une expérience. Donc, bon, c'est très très compliqué. Après, il y a des jeux que j'aime pas, mais ça, je vais les garder pour moi.
Mais c'est pas pour ça qu'il n'aurait pas dû exister. Mais tout à fait, c'est un peu le piège de ce genre de questions. Mmh. Enfin, le piège, en tout cas, après, quelqu'un aurait pu répondre « Ah, ce jeu, pour moi, n'aurait pas dû exister », parce que je pense que toutes les réponses sont valables.
Oui, oui. Alors, pour moi je tous les jeux sont utiles.
Ouais. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est comme tu l'as dit, en tant qu'acteur impliqué dans le milieu, toi, ton but, c'est de dire « faites des trucs ». Et donc, à partir du moment où les gens font et créent et partagent, il n'y a aucune mauvaise intention.
Exactement.
Moi, j'ai pas non plus d'exemple.
Tu vois, c'est chaud.
Non, mais justement, c'était pas forcément une question pour qu'on cite quelque chose, mais parfois des questions pour créer justement ce débat. Parce que tu vois, là, on parle de jeux vidéo, mais par exemple, il y a des gens qui disent ouais, cette chanson, ça sert à rien, ce film, ça sert à rien. Tu vois, il y a des gens qui pensent que parfois l'art, ça sert ou ça doit exister ou ça ne doit pas exister.
C'est comme les avis, hein, parfois ça sert à rien non plus.
Ouais, voilà, exactement. Très bien. Ok, je t'invite à prendre une deuxième
question. Deuxième question, il y a deux questions.
Ah oui, quand même, parce que...
Bon, heureusement que j'ai appris à lire entre-temps. je vais prendre celle-ci. Alors, as-tu un affect pour un studio de jeux vidéo particulier ? Si oui, pourquoi ?
Ah ah.
Et Capcom.
Ah, Capcom.
Capcom.
Eh oui.
Bah, en fait, j'ai deux que j'adore, mais Capcom est au-dessus.
Bah, tu peux parler un peu des deux. Hein,
Konami et Capcom, pour moi.
D'accord, et l'un et l'autre, pourquoi ?
Parce qu'ils ont été, ils ont été là dans l'âge d'or de l'arcade. C'est
expliqué peut-être qu'ils ont, ils ont fait comme jeu pour que les gens.
Ouais, j'allais y venir justement. Capcom, le jeu qui m'a le plus marqué chez eux, c'est quand même Street Fighter 2, qui a posé les bases du jeu de combat moderne, même si c'était il y a plus de 30 ans maintenant. Et Konami, parce qu'ils ont fait Castlevania, et Metal Gear et tout ça.
Ouais.
C'est des compagnies qui ont marqué l'histoire et la manière de faire des jeux vidéo et qui ont porté le standard de qualité assez haut avant dans les salles d'arcade, donc où c'était un petit peu les labos pour les créateurs de jeux où ça passait ou ça cassait. En arcade, ils voyaient très vite ce qui fonctionnait ou pas point de vue des retombées financières. Puis après, par rapport aux jeux sur les consoles de salon, ils sont très vite investis très fort et impliqués dans la création de jeux, et même sont devenus acteurs majeurs et sont démarqués des autres studios.
Donc ils ont eu un feeling, ils ont senti, ils ont creusé, ils ont créé vraiment toute une voie qui après a été...
Voilà, c'est ça, en gros. Après, je pourrais citer From Software aussi avec les Souls, mais...
C'est peut-être quelque chose qui te parle moins. Toi, t'es quand même dans le Versus, t'es quand même...
Donc... Oui, après... Ça, c'est mon côté joueur de jeu de combat qui parle. Mais pour moi, Capcom, historiquement parlant...
Capcom.
Ouais,
okay.
C'est vraiment...
Sans Capcom, il y a toute une partie du jeu vidéo actuel qui n'est pas le même ou qui n'existe pas, voire... Donc,
qui n'aurait pas été fait de la même manière, je pense.
Ouais, tout à fait, ok. Je suis d'accord. Ouais. Et Konami, donc, ça c'est peut-être pour le côté... c'est Hideo Kojima qui a fait notamment...
C'est Kojima qui a fait Metal Gear. Ouais. Donc, Konami, par exemple, ils ont pas mal bossé sur des shoots, comme par exemple Gradius. Parodius, c'est des shoots d'arcade. Mm-hmm. Et encore une fois, ouais, il y a Castlevania qui est super important en termes de platformer. Capcom a un peu répondu à ça avec... Enfin, je vais pas dire, peut-être Castlevania c'est une réponse à Ghost and Goblins et inversement, mais bon, ça s'est très fort influencé. En tout cas, c'est deux compagnies qui se sont tirées un peu dans les pattes à un moment et qui se sont fait évoluer l'une et l'autre, quoi. Là, c'est vraiment de l'arcade pure. Après, je pourrais citer d'autres trucs, mais on va pas trop rentrer dans le deep du sujet.
Ouais, ouais. Bah écoute, moi, si je devais répondre, j'irais vers From Software. Ouais. Clairement, comme tu l'as cité, parce que je pense que avant d'essayer Dark Souls 3, c'est le premier From Software que j'ai fait, je ne connaissais pas cette approche du jeu vidéo qui pouvait être non seulement hyper tryhard, mais en plus de ça hyper dark quand même, très profond. Et alors ce que j'aime beaucoup dans From Software, c'est le fait qu'on te mâche pas la narration, que du contraire on t'invite à aller chercher les informations par toi-même. Vu que les informations sont pas hyper disponibles, tu fais des théories dans ta tête, mais si tu veux les vérifier, bien t'en parles, tu vois. Il y a eu quand même énormément de forums à l'époque où Dark Souls est sorti, de gens qui disaient « Attends, j'ai lu ça, j'ai lu telle description sur tel objet, donc à ton avis, est-ce que machin ?» Donc j'aime bien en fait cette approche du jeu vidéo où on te propose un objet qui est fini, mais où tu peux y mettre un peu aussi de toi, ton interprétation, tu vois.
Ouais, c'est un peu comme une fin ouverte, on va dire.
Ouais, exactement, ouais, c'est ça, c'est ça.
C'est toi qui... En fait, ton imagination va aussi combler pas mal.
C'est ça, il y a des espaces qui sont créés pour que toi, tu t'investisses dedans.
Tu sais pourquoi c'est comme ça?
Non.
Parce qu'en fait, le gars qui a fait Dark Souls, enfin Miyazaki, il lisait beaucoup de bouquins en anglais du livre dont vous êtes le héros.
Ah,
il était gamin, il comprenait pas tous les mots.
D'accord.
Tu vois, et du coup, en fait, il s'imaginait, il recomposait dans sa tête un petit peu les trucs, et il vivait une aventure qui n'était pas du tout ce qui était écrit.
Ok.
Et lui, ça l'a inspiré pour faire justement ce côté un peu cryptique, et genre, tu vas toi-même imaginer ce qui peut se passer. Les environnements sont faits d'une certaine manière aussi. C'est la narration par l'environnement, je pense que ça s'appelle.
Ouais, ouais, ouais.
Et tout ça est fait exprès, et ça vient de spécifiquement cette expérience avec ces livres dont vous êtes le héros, où il n'avait pas la maîtrise de la langue anglaise, il comprenait un petit peu, mais qui devait combler un peu les trous, quoi. Okay. Et c'est un peu ce que Tunic fait aussi.
Tunic, c'est un cas d'école même presque dans tous les... En fait, Tunic est allé prendre dans Zelda, dans Dark Souls, des concepts hyper clés et les a rassemblés.
Il a réussi à faire un truc...
Waouh.
Ouais, c'est fou. Hein.
C'est assez incroyable. Ouais, moi, je reste encore sur le cul.
Mais ça, c'est des expériences des développeurs. Donc, c'est des trucs qu'eux-mêmes ont mis de leur enfance et...
Ouais.
Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Pokémon, c'est pareil aussi. Le gars, il chassait des insectes, il voulait faire des échanges.
Ouais.
Du coup, il s'imaginait ça.
C'est marrant en ce moment avec Pokémon sur Insta. Je vois pas mal passer. Il y a le gars qui a inventé tous les noms des Pokémon en version française.
Ah oui, française. Oui, ça j'ai vu.
Ça passe partout.
Beaucoup.
Et alors, il disait tiens, si genre Pikachu est un des seuls qui n'est pas traduit en français. Et il explique comment il l'aurait appelé s'il avait dû donner en français. Enfin, bon, c'est marrant. C'est aussi des petits insides.
C'est marrant, ouais. Mais ça, c'est des trucs. L'envers du jeu vidéo, c'est pour ça que nous on vend des petits bouquins sympas là-dessus aussi, c'est qu'on... Au-delà du jeu vidéo, il y a toujours un facteur humain.
Et culturel,
avec des influences. C'est super intéressant. Et ça, c'est un truc qui me passionne vraiment.
Ouais.
C'est de voir un petit peu pourquoi ça s'est créé comme ça, comment on en est arrivé là. Et tu vois, quand on dit par exemple si Capcom, je voulais rebondir là-dessus parce que je trouve ça important de le dire, si Capcom n'avait pas été là, on ne serait pas arrivé au jeu vidéo maintenant, mais je pense qu'en fait, si, parce que c'est les gens qui sont dans Capcom
qui ont
eu ces idées et qui seraient peut-être sur d'autres noms que Capcom, mais qui auraient quand même fait évoluer le jeu vidéo d'une certaine manière, parce qu'il y a l'humain qui est avant tout
au centre du processus. Quoi.
Processus, ouais.
Ouais, c'est vrai que ça se serait appelé différemment, ça aurait quelques détails auraient été différents, mais peut-être que l'intention de départ,
je pense que
globalement, vu qu'elle était là,
exact.
On aurait quand même poussé dans cette direction. Et... ouais, c'est vrai, c'est pas con.
Tu vois.
Ouais, c'est pas mal.
Comment parler de Kojima pour Konami ? Tu dis Konami, t'as Kojima, bah Kojima surpasse Konami de son aura, tu vois.
Ouais, tout à fait. Et au point où maintenant les gens disent Kojima parfois, point, ça suffit. Ouais, alors que c'est pas du tout un studio, c'est juste une personne.
Exactement.
Ouais,
c'est marrant de penser comme ça. Après, bien sûr, les moyens techniques mis en place par Capcom et les budgets, tout ça, c'est eux qui l'avaient. Mais j'aime bien appuyer le fait que derrière ça, t'as des gens qui ont poussé le truc, quoi.
Pour que ça se fasse, ouais, c'est ça. C'est des gens qui sont allés chercher, peut-être parfois Capcom, pour leur dire, regardez l'idée qu'on a, financez-nous.
Des gens qui ont l'audace de le faire et qui ont frappé à la bonne porte aussi, quoi. Parfois des coups de bol aussi. Bah bon, voilà.
Ce qui du coup revient un peu sur ce qu'on a dit au début, aucun du coup jeu vidéo ne doit pas exister.
Ouais,
chaque intention de jouer et de créer un jeu est pas forcément bonne, mais est là, est une intention. Mm-hmm. Et donc qu'elle se fasse et après qu'on n'ait pas à la nier, quoi. Ce serait dommage d'en arriver à...
Non, ni même à juger le processus, tu vois.
Oui, c'est ça. Ou alors, si tu juges, au moins essaye de dire... d'apporter un peu une pierre à l'édifice, quoi.
Ouais,
ce que je veux dire.
Voilà, non, bien sûr,
tu peux juger quand tu dis, ah, moi je verrais peut-être ça mieux comme ça, comme ça, mais bah, du jugement pur et dur,
c'est... rien n'est là par hasard.
Tout à fait. Exact, super. Bon, bah, écoute, Tiffen, on va se terminer sur ce magnifique proverbe de ta part. Je vais inviter tout de suite ton collègue Adrien à venir. Ouais, t'inquiète.
Bah, tu y vas, toi.
Tu vas le chercher.
Tu veux que j'aille le chercher ?
Oui, si ça ne te dérange pas. Ouais. Merci beaucoup. Moi, je reste avec vous. Je fais des petits regards autour de moi pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc, je suis au milieu du magasin New Game Plus. En face de moi, par exemple, il y a une étagère remplie de jeux PlayStation 1. Et à côté de moi arrive la deuxième tête pensante de ce duo. C'est Adrien. Comment tu vas ?
Coucou, bonjour. Ça va bien, Basile ?
Mais oui, toi ?
Très bien.
Ce samedi, comment ça se passe ce samedi?
Ça va, c'est calme. Hein.
C'est un peu calme. Mais bon, après.
Printemps mitigé, mais.
Oui, début de printemps, mais en même temps, c'est, tu sais ce que je disais tout à l'heure à mon coloc, le jour le plus chaud de 2026, pour l'instant, c'est un jour du mois de février. C'est quand même fou, non? Et on est en avril. Mais bon, écoute, on va pas commencer à parler de la météo. On n'est pas là pour ça.
C'est la
base. On est là pour parler de jeux vidéo. Peut-être que tu veux donner un complément d'information par rapport à l'événement que vous avez eu hier, donc la sortie physique du jeu Off avec son créateur, qui était donc assis là, en face de où je me tiens maintenant, et les gens qui sont venus le rencontrer. Comment toi t'as senti cette rencontre entre
Je trouvais ça vraiment très chouette. Parce qu'on en parle depuis un an avec Mortis Ghost, et finalement ça s'est fait, c'était vraiment super. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que son jeu vidéo représente quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire que quand on joue à ce jeu, on a l'impression que c'est faisable et possible de faire un jeu soi-même. Parce que le jeu en soi, il est assez simple dans les mécaniques. Je sais pas qu'est-ce qui a été dit juste avant. Donc,
non, on n'a pas trop expliqué, on a juste parlé de son parallèle avec Undertale. Mais
C'est un jeu fait sur RPG Maker 2000, donc c'est une ancienne version.
Mm-hmm.
Et lui, c'est à la base un artiste, un gars qui fait de la BD. Du coup, et à la base, il voulait juste. Il adore les RPG.
Mm-hmm.
Et il voulait juste faire son petit jeu. Et le truc, c'est qu'il avait un univers tellement fort que même sur un RPG le plus basique. Ever, c'est-à-dire tour par tour, je clique sur des éléments de décor, ça réagit, bah, il a réussi à faire un truc un peu original et qui a marqué toute une génération, moins en Europe, plus en Amérique, de ce que j'ai compris.
Okay.
Et je trouve que ça motive les gens à vouloir faire des jeux, à exprimer leur propre univers, et c'est très important que ce genre de jeu existe et qu'on en parle.
Tout à fait.
Tout le monde pourrait faire un jeu, en fait, mais les gens pensent que c'est trop dur ou qu'ils n'ont pas assez de personnalité ou techniquement, mais il y a toujours moyen de moyenner.
Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est le côté où on rend accessible, en fait.
Voilà, mmh. Voilà. Franchement, ouais.
Et c'est pour ça que, d'ailleurs, une de tes spécialités, entre guillemets, c'est un peu les jeux indés, notamment que tu suis sur leur sortie sur Switch, leur sortie... Il y a même la petite console avec la manivelle.
La Playdate.
Oui, c'est une... Comment ça s'appelle ?
La Playdate.
C'est ça, c'est une des premières choses que tu m'as montrées à l'ouverture du magasin. Ouais. Donc,
bah, c'est trop cool, bah, ça représente une autre manière de voir les jeux vidéo. Parce qu'avant, les jeux vidéo, au tout début, c'était des petits concepts. Et ce terme concept ne marche plus trop aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on en vend du réalisme, on vend des choses qui ressemblent de plus en plus à des films. Et on oublie un peu le concept de gameplay qui peut être très sympa et très marrant à faire. Avant, un concept pouvait faire rêver. Mm-hmm. On disait dans un jeu, on peut voler dans le ciel, et en fait, on a envie de le faire. Alors aujourd'hui, on dit, ok, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux tout faire comme dans la vraie vie, tu peux taper des gens.
Ouais.
Et il n'y a plus cette excitation. L'excitation, c'est ailleurs maintenant, c'est autre chose. Alors qu'à l'origine, le jeu vidéo, c'était encore une fois des idées, des concepts, des choses fun à faire. Et on peut faire ça, on peut faire ça, et on s'amuse, ouais, tout simplement.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce côté où... À l'époque, quand même, on découvrait encore le média et ses limites. On a quand même tout doucement, je pense qu'on n'a pas atteint les limites, mais on a quand même déjà découvert énormément de choses qu'on peut faire. Donc on n'est plus dans la découverte maintenant, on est plus dans l'exploration de ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a déjà découvert, peut-être.
C'est très vrai. Surtout qu'on joue toujours, dans les jeux vidéo console en tout cas, on joue toujours à la manette, on a toujours une croix directionnelle.
Tout à fait.
Et en fait, c'est des trucs assez archaïques depuis le début. Et est-ce que le jeu vidéo devrait rester un peu être jouable à la manette, parce qu'en fait, ça, voilà, on fait toujours des jeux de plateforme, etc. Mais les jeux de plateforme, ça fait déjà plus de 30 ans, 40 ans qu'on en fait. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à inventer? Je dirais oui, mais ça peut être très très large encore. Et
on a déjà beaucoup de choses accessibles, donc on peut aussi faire avec ce qu'on a déjà, quoi.
Exactement. Et malheureusement, dans les sorties de jeux vidéo en AAA, en général, c'est que on est obligé de faire des concepts qui marchent déjà parce que ça doit rapporter. Ouais, et quand ça rapporte, bah voilà, on est obligé de faire des concepts qui fonctionnent, que tout le monde connaît.
Ouais.
Mais on peut on peut pas donner à un artiste indépendant qui a une super idée que personne n'a encore vue, on va pas lui donner des millions pour faire son jeu si c'est pas rentabilisé derrière. C'est pour ça qu'on aime bien les jeux indépendants, parce qu'ils prennent des risques. Les pauvres, ils sont presque tout seuls à vouloir faire leur concept, et c'est là que d'une magie peut émerger.
Tout à fait.
Aller plus loin dans les détails, mais vous voyez un peu.
Ouais, on voit un peu que du coup, toi, un de tes discours, c'est dire le jeu vidéo est accessible, on a déjà plein d'outils, n'hésitez pas, venez rencontrer les gens qui en ont fait pour vous rendre compte exactement de à quel point tout ça est faisable et viable, et restons focus sur le plus important, c'est-à-dire créer quelque chose, le partager, le vivre ensemble. Et...
à fond, que ce soit un moyen d'expression, que le jeu vidéo soit un moyen de parler de son univers, et ouais, comme basiquement faire un dessin,
ouais,
on pourrait faire un jeu, tout simplement.
Trop bien.
C'est pas quelque chose qu'on pense que c'est impossible à faire. Et...
moi, je sais pas dessiner. Hein.
Non, mais c'est une manière de, voilà, de s'exprimer, de faire... On voit parfois des petits concepts émerger. Il y a des gars qui font des demandes de mariage dans un jeu, quoi.
Ouais.
Ils font des petits jeux qui durent 10 minutes c'est trop beau, c'est trop chouette, tu vois, c'est trop beau.
C'est vrai, c'est vrai. En fait, finalement, c'est juste un média et qui demande qu'à être mis dans les mains de tout le monde. Enfin, de tous ceux qui en ont envie, en tout cas. Il ne faut pas avoir peur de le prendre en main, cet outil. D'autant plus qu'il est de plus en plus accessible. Je pense notamment, il y a des moteurs
des logiciels,
accessibles,
des moteurs
comme Godot.
Il y a moins de faire un jeu sans coder, mais c'est pas
assez carrément
important. Ouais. Voilà, du drag and drop presque, du jeu Game Boy, ce genre de choses.
Il y a Scratch et ce genre de choses. Il y a en tout cas c'est accessible. Essayer. On va pas commencer à faire une histoire et un développement, mais c'est là, c'est, n'hésitez pas. Et puis d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, mais n'hésitez pas à venir voir Adrien chez New Game Plus à la chaussée d'Alzenberg, et suivre les événements qu'ils font, parce qu'en plus de ça, l'année passée vous avez déjà proposé des stages de création, notamment de jeux vidéo. Normalement cet été c'est peut-être aussi dans le programme. Donc voilà, effectivement, ces deux personnes que vous entendez maintenant, Adrien et Tiffen, sont des gens qui sont investis là-dedans. C'est pour ça que j'aime bien venir leur parler. Alors maintenant, on va parler d'autre chose, si tu veux bien. Bon, je ne sais pas quoi. Okay. C'est le Bob magique qui va décider.
C'est un tirage au sort de questions.
Ouais, tu tires une question dans le Bob, tu la lis à voix haute, parce que les gens ne peuvent pas la lire pour toi. Et après, tu y réponds, si tu veux bien.
C'est quoi ta console préférée?
Ah!
Aïe, 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 ça c'est compliqué. En même temps, c'est une question subjective, donc.
De toute façon, chaque réponse va être subjective, hein, donc il n'y a pas de souci. Toi, peut-être toi, de ton côté, de ton expérience personnelle, quelle est la console qui t'a apporté le plus de sensations de...
Bah, je joue aux jeux vidéo depuis tout petit, mais je pense que, bizarrement, je dirais la Switch Lite.
Ah ouais,
la petite Switch qui ne se connecte pas à la TV, parce qu'en fait, bah déjà, le catalogue Switch avec tous les jeux, encore une fois, indé et tout ce qui est disponible est juste colossal, et c'est très chouette de les collectionner, parce que c'est des petites cartouches. Et le fait qu'elle soit vraiment portable dans les mains, bah c'est assez chouette parce qu'on peut lancer n'importe quel jeu récent en portable et c'est assez agréable. Plus que la prise en main, je la trouve plus confortable que la Switch classique ou même la Switch 2 pour jouer en portable exclusivement.
Ouais. Parce qu'elle a été pensée à ça en fait.
Maintenant, ouais. Je trouve que c'est vraiment une console presque de poche et ça manque un peu les vraies consoles portables d'aujourd'hui. Maintenant, c'est plus des gros machins avec des ventilos ou bien des switches que personne ne va prendre en arrêt de bus. C'est plus la bonne vibe de l'époque où tout le monde avait une Game Boy ou une PSP dans la poche et ça se connectait ensemble pour jouer à Monster Hunter. Ou...
Ça, c'est clair.
Disons ça que... manque un peu, ça, de pouvoir jouer. Maintenant, on le fait plus avec nos téléphones,
bah, sur voilà.
Brawl Stars, etc. Et franchement, c'est pas mal. Maintenant, ça reste un free-to-play avec quelques comment dire, j'allais dire maléfices, mais c'est pas le bon mot. Mais voilà, c'est des jeux gratuits qui sont très cool, mais qui ont des concepts un peu Battle Pass et tout ça, qui, moi, m'excite moins. Mais ça reste très chouette à faire.
Oui,
c'est plutôt sympa. Il reprend un peu cette vibe à l'ancienne.
Un des exemples quand même les plus flagrants, même si récemment il a défrayé la chronique dans le mauvais sens, c'est Pokémon Go, quoi. Ça a été,
ouais.
Ça a été quand même le...
C'est un très cas particulier, ouais.
Mais ça a été quand même, tu vois, pour moi, un des trucs les plus similaires, comme tu disais, on se baladait avec sa Nintendo dans la poche et on faisait des trucs ensemble. Là, c'est tout le monde se balade avec son téléphone et interagit à l'échelle mondiale, carrément.
Ouais, s'il y avait pas trop de système, au début, à la sortie, en tout cas, il n'y avait pas trop de système d'échange et de vraie interaction entre les gens, ce qui était un peu dommage. Ils l'ont fait par après, mais c'était pas non plus hyper intéressant. Parce que le Pokémon fonctionnait bien avec les échanges quand il n'y avait pas Internet.
Ouais.
C'était là qu'Internet, tu peux envoyer sur Internet, tu peux même déposer dans un espèce de dépôt et ça part tout seul. Du coup, t'as moins ce truc de vouloir échanger avec ton ami à renommer ton Pokémon. Tu le nommes Basile et tu l'envoies et le Pokémon devra s'appeler Basile jusqu'à la fin de sa vie.
Ok, et tu veux pas, donc tu penses qu'on n'a pas encore forcément retrouvé la sensation d'interaction de jeux vidéo avec autre chose que la Game Boy par exemple?
Tu veux dire socialement?
Ouais, socialement.
Bah, c'est une très bonne question et c'est nous ce qu'on essaie de faire parce que quand on fait des jeux multijoueurs aujourd'hui, c'est souvent pensé d'abord être en ligne, une fois pour être plus rentable. Mais oui, c'est pour ça qu'on a des bandes arcade justement au shop pour que les gens se retrouvent un peu sur un jeu et s'amusent dessus côte à côte. Et je trouve qu'on oublie un peu ces petits moments où on passe un peu sur un jeu, on joue 30 minutes sans trop se casser la tête et d'où les jeux d'arcade qui étaient justement des jeux plutôt courts.
Ouais.
Et aujourd'hui, il y a ça s'est un peu perdu, je trouve. Maintenant, on essaye de mettre ça en avant et que les gens jouent ensemble, que ce soit sur place ou à la maison, dans un canapé. Mais il n'y a rien qui tire dans ce sens-là aujourd'hui. Même il y a des consoles portables, vous, encore une fois, la Switch, elle est quand même pensée pour être jouée côte à côte avec d'autres Switch. Mais les gens ont moins le réflexe de le faire, un peu à cause des téléphones aussi, mais...
Ouais, mais parce que là, ils viennent nous distraire.
Non, parce que voilà, le téléphone est déjà dans la poche, il y a déjà des trucs dessus. On n'a pas notre Switch dans la poche, ou une Game Boy dans la poche, ou tout simplement une console toute petite, comme la Playdate, pour ceux qui arrivent à visualiser, sinon je vous invite à voir, ça prend la taille de la paume d'une main.
Donc, il y a une toute petite manivelle.
Ouais, quand je suis parti en voyage, j'ai beaucoup joué à cette console, et j'ai vraiment ressenti le délire d'avoir une console portable dans les mains, comme une Game Boy à l'ancienne. Et ça m'a fait plaisir.
Trop bien. Bah, si je devais répondre à la question, moi je dirais que c'est la console que j'ai préférée, c'est la PlayStation 2.
Ah, oui.
Mais je pense que c'est quand même une raison pas très très désolée la tienne, parce que la PlayStation 2, c'est la console avec laquelle mon frère et moi on était dans le salon et on a joué à deux. Et finalement, c'est quand même une expérience qui reste marquée en moi et qui rejoint un peu ce que tu dis. Par exemple, moi je n'ai jamais ressenti vraiment à nouveau profondément ce truc de on est l'un à côté de l'autre, on est dans le même jeu au même moment et on peut limite se pousser en mode on jouait à Need for Speed et tout ça, tu te pousses dans Need for Speed mais tu te pousses dans la vraie vie aussi, tu vois. Aussi ce truc de
le split screen.
Ouais, le split screen, c'est ça exactement. Ouais. Après, là, on a joué récemment à Split Fiction, qui essaye de revenir à ça, mais malgré tout, on est chacun de notre côté dans notre maison, donc on n'est pas ensemble. Et alors, ce que je voulais dire aussi, ce qui est marrant, c'est à quel point, en tant qu'enfant, on était parfois inventif, parce qu'il y avait des jeux un joueur, que nous, on jouait à deux, et on faisait juste quoi ? Une vie, tu perds ta vie égale tu donnes la manette à ton petit frère ou à ton voisin ou et donc c'est vraiment en mode ben en fait c'était un jeu qui était pensé pour être joué à 1 mais derrière parfois il était joué à 2 à 3 à 4 et c'était du coup un duo un trio ou plusieurs personnes qui jouaient qui vivaient une aventure en même temps. Tu vois.
Mais c'est vrai que la PS2, la PS1, c'était un peu l'âge d'or. On allait, on prenait son jeu, on allait chez notre voisin et on jouait.
Ouais, c'est ça. Et puis il y avait aussi, enfin moi c'est pour ça que j'adore le lieu ici, c'est parce que ça me rappelle les anciens endroits où on pouvait louer des jeux aussi. Ouais. Moi je me souviens, on allait à la vidéothèque, on prenait des DVD et pendant que les parents choisissaient les DVD, nous on allait du côté des jeux vidéo, on prenait un ou deux jeux vidéo, on les ponçait pendant 3 semaines et après on les rendait. Et c'était pas nous, c'était pas notre jeu,
C'était si long que ça.
De quoi ?
Tu pouvais louer pendant 3 semaines.
Tu pouvais louer pendant au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines. Mais voilà, je partirais effectivement sur un sentiment qui finalement se rapproche du tien dans le sens où on a vécu quand même une époque où le fait on était connecté, mais on était aussi là, quoi.
Quand on voulait jouer, on allait. Je me souviens quand il y avait une nouvelle sortie de console, par exemple la PS2, bah il y en a un qui l'avait, et bah t'avais 5 potes qui allaient le voir pour aller voir tourner sa console. Et ça se fait plus trop aujourd'hui. Si quelqu'un achète une PS5, il va la déballer toute seule chez lui. Il y a plus trop cette vibe. Ouais c'est bon, on peut regarder un unboxing sur YouTube, tu vois. Ça casse un peu. Mais c'est marrant parce que justement, la PS1, la PS2, on faisait ça, mais à partir de la PS3, on le faisait un peu moins. Mais c'est justement là où Internet est apparu sur les consoles. Mm-hmm. C'est pas vraiment vrai, il y en avait sur la PS2, mais c'était plus niche.
Ouais. Voilà, il fallait avoir déjà Internet chez soi. Quoi.
On aime bien dire que le jeu vidéo, c'est aussi passer un moment ensemble et que le jeu vidéo n'est juste un prétexte pour qu'on passe un petit temps ensemble.
Mm-hmm, tout à fait. Comment on va voir un film
On essaie de reconstruire ça. Oui, exactement, comme les films. Film à pizza, jeu à pizza.
C'est ça. Et oui, c'est vrai que les deux sont avec une pizza. je vais t'inviter à prendre une deuxième question, s'il te plaît, Adrienne.
Quelle est ta dernière surprise vidéoludique ?
Ouais. Ça, c'est... Moi j'aime bien ça, les surprises vidéoludiques, parce que soit tu lances un jeu, tu t'attendais pas à grand chose et puis bam, en fait c'est vachement cool, ou je sais pas, une mécanique ou je sais pas, un truc où tu t'es senti vraiment surpris dans un jeu vidéo ou par un jeu vidéo.
Attends, parce que ma mémoire est très fragmentée, je vais essayer de trouver un truc.
Pas de soucis. Bon, je peux parler du mien si tu veux entre-temps.
Ouais, je veux bien, ouais.
Bah, là en ce moment, moi je suis en train de jouer à Lords of the Fallen. Ah. Et ben franchement, je suis vraiment très content de l'avoir continué parce que ça fait deux ans qu'il est sorti, je sais plus. Bref, ça fait un petit temps qu'il est sorti, mais ils font beaucoup de com. Ils ont le studio a beaucoup retravaillé la version de base au point où maintenant on a la version 2.5 sur Steam. Et donc pour dire, quand je l'ai lancé, j'ai fait ouf, c'est que les codes de From Software. Et donc vu que j'ai quand même une idée préconçue de From Software qui est assez présente, je me disais aïe aïe aïe, faire comme quelqu'un, est-ce que ça fonctionne? Et puis finalement, en fait, ils ont apporté cette mécanique de double monde. Donc en fait, dans Lords of the Fallen, on incarne quelqu'un qui, comme dans les Souls et tout ça, vient sauver, entre guillemets, vient essayer d'un peu ramener à la raison tous les gens qui ont sombré dans la folie ou la démence et tout ça. Et par contre, ce qui est la particularité, c'est que le personnage principal a une lanterne qui lui permet de switcher du monde, entre guillemets, des vivants au monde des morts. Et ce qui veut dire que, déjà, le principe de base, c'est qu'il n'y a jamais une map, tu es toujours dans deux maps en même temps. Et ça, je trouve ça incroyable comme sensation, parce que tu te dis toujours, donc tu es en train de marcher, imaginons tu marches dans un champ de bataille, et puis tu dis, mais attends, ça tombe, il y a quelque chose là, à cet endroit-là, mais je le vois pas parce que je suis pas encore dans le bon monde. Et donc là, tu sors ta lanterne et tu peux scanner autour de toi, et si tu vois qu'il y a plein de trucs qui apparaissent, tu dis « Ok, je vais switcher dans l'autre monde », et là, boum, tu arrives dans l'autre monde. Et cette sensation-là, je l'ai trouvée vraiment très très bien, donc c'est ce petit truc en plus qui, moi, à la base, je me suis dit « Ça va pas suffire », et finalement, si, ça en fait un jeu vraiment très très chouette, et que je continue de... Je suis à une dizaine d'heures, là, et je pense que je suis arrivé à un tiers du jeu pour le moment.
Ouais, donc, c'est cool.
Donc c'était ma petite surprise des dernières semaines. Voilà, est-ce que tu as trouvé la tienne ?
Ouais, bah, en fait, je triche un peu, mais je ne vais pas parler de celui-là. Mais ma dernière surprise en date, c'est un peu le jeu Off qu'on a cité de Mortis Ghost.
Ouais.
Parce que voilà, il a quand même transmis un univers par un concept très simple de RPG, donc je l'ai dit au tout début. Mais un qui m'a marqué il n'y a pas si longtemps, c'est un jeu que je n'avais pas fait à la sortie, mais que j'ai fait récemment, c'est Doki Doki. qui est en fait un digital novel qui existe autant sur PC que sur console.
Donc digital novel, ça veut dire que c'est un peu comme un roman graphique, mais version jeu vidéo, c'est ça ?
En fait, c'est un jeu de lecture. On lit, on peut interagir avec des personnages. C'est un vrai jeu de lecture, donc les trois quarts du temps on ne fait que lire. Uh-huh. Et parfois tu dois prendre des décisions, et c'est dans ces décisions ça influence fort l'histoire et même changer la fin du jeu. Et moi je suis pas très fan des digital novels de base, parce que c'est des jeux qui m'ennuient. Quand j'ai envie de jouer, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de faire des déroulades,
Hyperactif.
De base c'est pas un concept qui m'excite. Et Doki Doki a été une exception, parce qu'au début ça se déguise un peu sur un jeu un peu itchy avec des écolières, et on se dit que c'est juste un jeu de drague, et j'avais jamais vraiment joué à un jeu comme ça. Et en fait, j'en ai tellement entendu parler, et que c'était bizarre. Du coup, ils disent que c'est un jeu de 18 ans, et ils disent derrière la boîte, attention, il y a des concepts très, très sombres. Et je me dis, allez, je l'avais en main, du coup, je l'ai essayé. Et en fait, ce jeu te retourne le cerveau.
D'accord, carrément.
Je ne vais pas trop spoiler, mais c'est un jeu qui joue avec le quatrième mur. C'est un jeu qui te parle à toi en tant que joueur, qui est caché derrière la console.
J'aime beaucoup ça.
Et c'est assez bien foutu, parce qu'au début, c'est un peu lolo, vas-y, t'as envie de... Tu t'intéresses au personnage, tu t'intéresses à une des nanas de l'histoire, du coup, tu penches un peu en sa faveur en discutant avec elle, tu la privilégies. Et en fait, le jeu te fait des blagues. Et à un moment, il y a des trucs que j'avais jamais vu dans un jeu vidéo, dans Doki Doki. Parfois, à un moment, t'es enfermé avec un personnage et t'es obligé de lui parler pendant... longtemps. Voilà, je n'en dirai pas plus, franchement.
Génial.
Très chouette jeu à faire avant de dormir. Vous prenez ça comme un petit livre. Et très bonne surprise, parce que ça a réinventé un peu le. Enfin, je ne suis pas très habitué au genre, à part. Il y avait aussi 13 Sentinelles Agis, qui est aussi un digital novel, mais avec du combat. C'est un peu. Celui-là aussi m'a retourné le cerveau, parce qu'il y a des concepts temporels, qui, moi, je trouve ce concept un peu nul de base dans les histoires, parce que c'est un peu facile. Mais qui marche très bien dans ce jeu-là. C'est-à-dire des choses où on peut revenir dans le temps. Et l'histoire est fragmentée avec tous les personnages de ce jeu-là. Donc je parle toujours de 13 Sentinelles Agis. Uh-huh. Et c'est hyper bien foutu, parce que plus on joue, plus on se rend compte que tous les personnages sont hyper liés, qu'ils sont vus dans le passé, ils sont vus dans le futur. Et on arrive à suivre.
Ok.
Voilà.
Et dans la vibe discours méta, t'avais fait Inscription ou pas ?
Je l'ai un peu fait, mais j'ai pas assez joué.
Ah ouais, donc pas cassé le quatrième.
Non, mais ma copine jouait à côté de moi à un moment, et j'ai vu qu'elle faisait des têtes bizarres, alors que je pensais que c'était un bête roguelike avec des cartes.
Pas du tout.
Mais pas du tout.
Effectivement.
J'ai vu des yeux bizarres dans l'ombre.
A priori, c'est ce genre de sensation que tu as eu avec Doki Doki.
Ouais, mais j'en ai beaucoup entendu parler, donc il faut que je retente.
Trop bien. Bah écoute, merci pour ces questions, ces petites réponses, et merci d'accueillir l'émission encore une fois.
Toujours intéressant.
Je vois que ça s'agite autour, alors je vais te laisser aller continuer à faire ton travail, parce qu'en fait là, ça fait 20 minutes chacun que je les ai retenus, je les empêche de travailler.
Un samedi.
mais on continue l'émission, va. Et je te souhaite de toute façon une bonne journée et à
bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup Basile, c'est quand tu veux.
Avec grand plaisir. Ciao, ciao. Et on a quelqu'un peut-être qui veut prendre la parole à côté. Je te laisse installer le casque micro sur ta tête. Et il me semble que c'est pas la première fois qu'on parle dans un micro ensemble. Hein.
Je me rappelle plus comment tu t'appelles. Et j'ai le retour de la voix dans mes oreilles.
Si tu veux, si tu veux bouger, c'est ici. Tu es le orange.
Non, ça fait un peu funky. C'est très très drôle.
Yes. Moi, du coup, c'est Basile.
Ah, moi c'est Artemis.
Ah voilà.
Enchanté.
Super. On s'était, je pense, croisé sur l'émission Scope.
Ouais, on avait fait une chronique sur les films Ghibli, si je dis pas de bêtises.
C'est possible, c'est tout à fait le genre de chronique qu'on aurait pu faire. Ok. C'est pas la première fois que je te croise ici à New Game Plus, je pense.
Non, parce que c'est pas très loin de chez moi et que l'ambiance est sympa.
Ouais.
Franchement, ma voix dans ce micro est vraiment magistrale.
je te laisse apprécier le moment de cette voix. Dis-moi un petit peu, est-ce que tu veux d'abord, dans ce qu'on a dit, j'ai vu que tu écoutais tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait écho, ou alors tu veux qu'on parte directement peut-être sur une question ?
À la fin, vous avez posé des questions sur les jeux qui ont marqué récemment. Je ne me rappelle plus son nom.
Adrian,
il a parlé de Doki Doki, qui est effectivement un excellent jeu.
Ouais.
Dans les visual novels, qui est effectivement un genre qui peut ne pas plaire à tout le monde, puisque c'est surtout la lecture. Mm-hmm. J'aurais une licence à vous conseiller, qui est la Zero Escape.
Ok.
Pareil avec des villages temporels, tout ça. Et c'est un des jeux qui, m'a fait ne pas regretter d'avoir acheté une Nintendo DS à l'époque.
Ok, ok.
Et c'est disponible sur Steam à un prix tout à fait raisonnable.
Oui, comme à mon avis, beaucoup de jeux DS de l'époque sur Steam. Enfin, je ne sais pas s'ils ont...
Non. Il y a quand même pas mal de jeux qui sont transposés, notamment la série des Phoenix Wright.
Ouais.
Des Ice Attorney, pardon. T'as les Death Gaia qui a été porté aussi, mais Death Gaia, ça va, c'est plutôt une licence PlayStation. Les Hero Escape sont passés dessus. Oui, en fait, tu as raison.
Ouais, mais non, mais je parlais aussi du fait du prix raisonnable. J'ai l'impression qu'un jeu DS sur Steam actuellement.
Non, ils s'en mettent pas pour les prix.
Ouais,
genre les DS Attorney, ils sont pas donnés.
Ah,
mais... Par contre, ils sont en promo souvent.
Ok, mais écoute, pour faire comme les autres, je te propose de prendre un papier, de le lire à haute voix et après de voir.
Quel est ton tout premier jeu qui t'a-t-il marqué?
Tout premier jeu, ouais.
Tout premier, je saurais pas dire parce que quand j'étais petit, je regardais beaucoup mon frère et mon père jouer.
T'as des souvenirs de ces personnes en train de jouer, mais pas forcément toi.
Oh, ouais. Après, c'est des jeux qui me faisaient peur, j'avais peur de tout quand j'étais petit. Ils jouaient à un jeu éducatif sur. Je sais même pas c'était quel support, peut-être Amstrad, enfin, c'est un vieux truc.
Ouais.
Je sais même plus. En fait, j'arrive pas à retrouver le jeu. D'ailleurs, si quelqu'un à la radio connaît ce jeu, en gros, c'était un jeu éducatif avec un ours dans une forêt en pixels, mais faut vraiment imaginer. Des graphismes, il y a genre 5 pixels sur l'écran. Quoi.
Ouais, tout à fait. C'est un ours cubique.
L'ours, on le contrôlait pour faire traverser des labyrinthes et faire des jeux éducatifs, je ne sais plus très bien. Et alors, quand il gagnait, ces petits pixels s'animaient, ils faisaient une espèce de danse et la musique, ça faisait. C'est tout ce dont je me rappelle et également de la terreur que ça m'influait. Bon.
D'accord. Et donc, ça, c'est pas ton expérience, c'est toi, c'est une expérience par procuration, on va dire.
Mais le tout premier jeu auquel vraiment j'accorderais ce titre,
ouais, bien
c'est
sûr.
Wario Land 2 sur Game Boy en 97 ou 8.
Ok.
Je pense que c'était 98.
Wario Land 2.
Alors.
Et est-ce que tu sais expliquer un petit jeu? Je le connais pas, moi.
Alors, est-ce que tu connais Wario Land?
Non.
Est-ce que tu connais Mario?
Oui, bien sûr, connais Mario.
Mario, c'est le gentil. Wario, c'est le méchant.
Ouais.
Sauf qu'il a un tel charisme que Nintendo s'est dit, on va faire une série sur ce personnage.
Ah bah oui.
Et du coup, alors, déjà, c'était un boss dans le dernier Mario sur Game Boy, sur Mario 6 Golden Coins. Super Mario Land 3, 6 Golden Coins, donc c'est le boss final. Et qui s'est emparé du château de Mario parce que il aime bien la richesse et les châteaux. Mais il a tellement une bonne bouille que Nintendo s'est dit on va faire une série sur lui. Donc ils ont fait la série Wario Land où tu incarnes Wario qui est, contrairement à Mario, pas très agile, balèze et qui est cupide aussi.
Ouais, il est un peu plus gras du bide, ça je vois visuellement.
Oui, mais en fait, surtout il est fort.
Ouais.
Il est un peu gros donc ça fait un peu méchant, donc c'est un peu la caricature évidemment.
C'est ça.
Grossophobe, ouais. Des méchants.
On est d'accord.
Mais lui il est surtout balèze en fait. Il est gros, mais surtout il donne des coups de poing, il balance des ennemis, il les chope, il les balance, et surtout il leur pique leur argent.
Ah waouh.
Et donc le premier c'était un Mario-like, donc avec des systèmes de vie, tout ça, et des transformations.
Platforming aussi du coup.
Ouais, platforming tout à fait. Et avec une ambiance très très particulière justement où t'incarnes le méchant, mais t'incarnes le méchant qui bat contre d'autres méchants, donc c'est en gros tu te bats contre des pirates qui veulent te payer ton argent, piquer ton argent, mais tu veux leur piquer ton argent, enfin bref, c'est un peu, voilà. Mais c'était un Mario très similaire, c'est un Mario-like. Et à partir du deuxième opus, donc celui avec qui j'ai commencé, ça devient plus un jeu de plateforme toujours, mais de puzzle, où ça fait un peu à Tex Avery. Wario va se transformer via divers obstacles en chauve-souris, il va sauter plus haut, il va devenir tout petit pour traiter les ruées, les endroits étroits, il va se faire écraser par des poids, donc il va pouvoir ramper sur des espaces
hyper fins,
voilà. Et ça devient en fait le cœur de la série
Wario Land.
Et le 2, vraiment, c'est le prototype de ce qui va devenir le jeu Wario en fait. Et le 3, c'est pareil, avec une composante Metroidvania, puisque t'as en plus de ces transformations locales, t'as des transformations plus globales sur plusieurs niveaux. Excellent jeu aussi, que j'ai fait récemment, parce que j'avais pas de Game Boy Color à l'époque.
Ouais, ok.
Et le jeu, on va dire, l'aboutissement de ce jeu, c'est Wario Land 4, qui est sorti sur Game Boy Advance en 2001. Et en fait, c'est un jeu, quand tu regardes le jeu, tu te dis, mais comment ils ont pu faire ça sur... à la sortie de la console. On dirait que c'est les gens qui ont compris comment fonctionnait la console
dès le début.
C'est magnifique, il y a des couleurs partout. Bon, c'est la Game Boy Advance quand même, mais il y a aussi une recherche plastique, etc. Et pareil, toujours avec ce concept de puzzle à résoudre, etc. Et c'est très très drôle. C'est le côté comique les ressorts comiques sont bien là. Il n'y a pas vraiment de scénario, genre ils veulent juste avoir du pognon, quoi. Mais les environnements, tout ça, il y a un côté très comique. Et surtout, pourquoi je parle de Warioland, c'est parce que c'est effectivement ma série préférée,
ouais.
Vous entendez. Mais aussi parce qu'à partir du 4, c'est devenu aussi un jeu, pas de rythme, mais d'ambiance sonore particulière. En fait, pour Warioland 4, ils ont donné tous les pouvoirs à un random guy. Chez Nintendo, ils ont dit, toi tu fais de la musique, ok, tu fais de la bande-son de ce jeu-là.
Ok.
Et il y avait beaucoup trop de budget. Et du coup, quand il a fini de faire les musiques des niveaux, il a dit, mais qu'est-ce que je fais avec le reste du budget? Je lui ai dit, vas-y, tu bosses encore du budget.
Vas-y, continue.
Et du coup, Wario Land 4, c'est un bijou du sound design.
Ok.
Wario, il parle, il rigole, il hurle, c'est... Et donc, chaque interaction, quand il se prend un coup, il peut rire aussi. Mais ils ont fait en sorte que chaque rire soit différent en utilisant les capacités de la Game Boy Advance pour... etc.
Excellent.
C'est... Vraiment, écoutez, c'est une ambiance assez impressionnante. Et surtout, avec le budget qui lui restait, il a inclus un karaoké. Oh bah. La Game Boy Color chante.
Génial.
La Game Boy Balance chante. C'est niveau, y a un niveau où, littéralement, la bande-son, c'est un karaoké. Tu peux chanter avec.
Waouh, ok. En japonais, du coup.
C'est en japonais, ouais. Et sauf qu'il y a aussi en anglais, quand ils ont traduit, quand ils ont fait le port aux États-Unis, mais pour la musique de fin, la musique des génériques.
Ok.
Et il y a un sound test. Donc le sound test, pour ceux qui ne savent pas, c'est généralement un menu dans un jeu où tu peux tester les musiques du jeu, mm-hmm. ou écouter en dehors des niveaux. Et ce sound test, c'est pas ça du tout. C'est le mec qui s'est dit, bon, j'ai du budget, j'ai composé des musiques un peu électro-acoustiques expérimentales.
Waouh.
Et du coup, chaque musique est bizarre.
Mais attends, du coup, c'est un sound test avec des chansons que t'as pas entendues en jouant ?
Non.
C'est wow,
dans le jeu, tu ramasses des trésors, et parmi ces trésors, ça
te débloque des musiques.
Mais moi, quand je me rappelle, je me dis, bah, j'ai écouté la musique, ces musiques sont sympas, et je reconnais pas les musiques. J'ai pas joué au même jeu.
Donc c'est un album, en fait.
C'est un album.
Excellent. Ah, c'est incroyable, ça.
Et, et ça, je m'en rends compte seulement maintenant, parce que moi, musicalement, j'ai jamais vraiment été éduqué. Mais là, je me rends compte à quel point c'est une prouesse intechnique pour le karaoké. Et aussi, une espèce d'ambiance bizarre, délirante. Il y a notamment un des CD que tu peux écouter dans ce sound test, où c'est littéralement, tu comprends que c'est deux personnes qui cherchent leur chambre un hôtel.
Ah ouais, ok.
Et du coup, ils chuchotent, et ils tapent sur toutes les portes, ils ouvrent les portes, et à chaque fois derrière la porte, il y a...
il y a quelque chose.
Il y a quelque chose qui ronfle, il y a genre une plaine avec des chats qui miaulent. C'est vraiment rigolo et tu sais pas du tout à quoi tu t'attends, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc, toi, si on peut dire, ce qui t'a marqué, c'est à quel point l'univers est développé, voire hyper développé sur certains points. Et là, qui est en plus, je pense, le point de la musique, du son. Est-ce que c'est quelque chose qui, de manière générale, te parle dans les autres jeux aussi ou...
Bah oui, alors moi, j'ai un rapport à la musique très cerné sur des événements de ma vie. Et généralement, j'aime les musiques que je peux écouter en répétant, parce que ça me refait vivre les moments liés à ce moment de ma vie ou du jeu vidéo.
C'est ça, c'est une mémoire que tu as qui est plutôt auditive et donc,
Ouais, j'ai du mal à écouter de nouvelles musiques, parce que écouter de la musique comme ça, ça n'évoque rien particulièrement. Il faut que ça soit lié à un contexte. Donc, par exemple, par contre, si tu me sors danser dans un bar dansant,
ouais.
Là, je vais associer Billie Jean de Michael Jackson à ce moment, et du coup, je vais pouvoir écouter. Et les jeux vidéo, c'est très pratique pour ça, parce que les musiques se répètent.
Ouais.
Et du coup,
c'est vrai que c'est des boucles parfois.
Bah, c'est souvent des boucles.
C'est souvent des boucles, parfois des très très grandes boucles, donc elles se répètent qu'une fois ou deux. Mais
oui. Et en plus, c'est tout un concept, parce que les compositeurs de musique, les premiers compositeurs de musique, ont dû faire ça, genre. On va mettre une musique, mais on ne sait pas combien de temps le joueur va passer dans cet environnement.
Ouais,
donc il faut que la musique puisse boucler et que ça ne se rennuie pas trop le joueur, etc. Et c'est intéressant comme théorie.
Ouais, en termes de jeux vidéo, en plus au niveau musique, il y a eu quand même quelques belles prouesses. Moi, je vois quand même beaucoup Doom Eternal, par exemple, reste pour moi hyper impressionnant, dans le sens où là, c'est même plus des boucles, c'est de la musique qui s'adapte en fonction des actions que tu fais. Puis après, que je n'ai pas encore fait, mais que j'aimerais vraiment bien faire, il y a eu Hellsinger, qui est plutôt là vraiment un jeu de rythme, mais mélangé à Doom. Donc en gros, tu dois vraiment tirer au bon moment en rythme avec la musique pour faire des combos, des tchik et des tchak. Donc c'est vrai que la musique est une composante qui laisse place à la créativité et au sensationnel, en fait, dans le jeu. Ok, super.
C'était, ouais, il y a pas mal de jeux. En fait, les jeux, je réalise que la plupart des jeux qui m'ont marqué vraiment, c'est les jeux où la musique a une part importante.
Bah ouais.
Et si je peux faire la pub pour un tout petit jeu.
Vas-y, bien sûr.
Nintendo DS, qui coûte genre 3 balles, si vous le trouvez chez Cash Converter, c'est Meteos. Et Meteos, c'est en gros un Tetris, sauf que la musique et les bruits du jeu s'adaptent en fonction de la stack d'objets que vous avez sur l'écran.
D'accord.
Et
donc plus il y a d'objets, plus ça...
Ça devient stressant, tout ouais, ça, ouais. Et c'est vraiment, pareil, une expérience vidéoludique et sonore très particulière.
Meteos sur Nintendo DS.
Ouais, okay. Je crois qu'il est sorti sur d'autres plateformes, moi j'ai joué sur Nintendo DS.
Possible. Ok, ok. Est-ce que tu te verrais de prendre une deuxième question ou...
Ouais.
Ouais ? Vas-y, vas-y, on avait fait deux questions chacun pour le moment.
Non, ça c'est bon, j'ai déjà répondu à la question. Voilà, le personnage de vidéo auquel tu ferais confiance sans hésitation.
Ah ouais. Un personnage de jeu vidéo auquel tu ferais confiance sans hésitation.
Alors, j'ai une réponse à ça, mais ça part d'un jeu un peu obscur.
Ah, vas-y, vas-y, on est là pour ça.
On parlait de visual novel tout à l'heure.
Ouais.
Et je pense que le visual novel qui m'a le plus marqué, c'est un visual novel qui s'appelle Le Sanglot des Cigales. Le nom original c'est Hirugashi no Nako Colony, okay. C'est un jeu japonais à la base, mm-hmm. qui était traduit en français par un mec qui habite à Pont-à-Mousson en France, RPZ.
Ah, tu viens de là-bas ?
Oh, pas loin.
C'est ok.
Et c'est un jeu qui parle de confiance, justement. De confiance, de théorie du complot. C'est un jeu, je l'ai relu récemment, enfin, c'est un livre-jeu que j'ai refait récemment qui est extrêmement contemporain. Moderne
En tout cas qui fait écho à des choses qui se passent en ce moment et
c'est
pas dépassé quoi.
Ah non, c'est pas dépassé du tout. Et plus tu relis, je pense, si je relis dans 2 ans, je vais me dire ah ouais, c'est encore plus Et ça met en scène des personnages, donc un petit garçon qui arrive dans un village perdu dans les montagnes japonaises et qui est en fait un transfer student, donc il arrive dans une école où il est pas connu, il se fait des potes là-bas. Et puis, progressivement, il découvre des trucs horribles sur la ville, mais lui-même, y croit ou n'y croit pas, et ça se transforme en parfois massacre, parfois machin.
Ah, waouh.
C'est pas vraiment un spoil de dire que c'est un massacre, mais c'est tout un système autour.
C'est quand même un truc un peu thriller ou...
Ouais, c'est un thriller, un peu horreur. Moi, personnellement, la première fois que j'ai lu, j'ai été terrorisé par D'accord. des scènes très, très marquantes.
Waouh.
Et dans ce jeu, du coup... le personnage principal, je pense que je me suis pas mis un plan, parce que dans le premier tome, il tue tout le monde quand même. mais ce personnage principal, donc Keishi s'appelle, il a une remontada vers la fin de l'histoire, où en fait, il se rend compte de la paranoïa collective qui expérience notamment une de ses meilleures amies. Mmh. Et c'est un moment qui fait toujours pleurer, parce que cette personne, dans ce moment-là, est persuadée que... il y a un complot gigantesque contre elle, contre tout. Et c'est tellement bien écrit que tu pourrais prendre les théories du complot de 2016 avec Donald Trump ou n'importe lesquelles, le Covid, machin. C'est exactement raconté de la même manière.
Ouais.
Et le jeu prend parti de te montrer comment faire pour.
En sortir.
Pas en sortir, parce que faire sortir quelqu'un de ses pensées complotistes, c'est super dur.
Ouais, ouais.
Par contre, il te montre l'aspect communautaire qu'il faut avoir autour de quelqu'un, en plus d'un ami. Mm-hmm. Et en gros, tout ce morceau d'histoire, c'est notre copine est en train de péter un câble parce qu'elle croit qu'il y a des aliens, ils sortent vraiment des trucs, tout, mais on va pas la laisser tomber. On va lui dire, ok, t'es en PLS, mais tu restes notre pote.
Ouais, c'est ça.
Et
On va la soutenir.
Alors, ça se finit. Je vais pas trop spoiler quand ça se finit, mais il y a vraiment une dimension humaine et communautaire sur la gestion de tes amis qui commencent à croire que le vaccin ça marche pas, enfin des trucs comme ça. Et surtout, qui prend le parti de dire voilà comment moi je résoudrais les choses, quoi. Enfin, comment l'auteur résoudrait les choses.
Ouais.
Et l'auteur. Très honnêtement, il n'a pas écrit que ça. Tous ses bouquins parlent de façon ou d'une autre de l'entraide, des aspects communautaires, de leurs dérives aussi parfois.
Ouais.
Et du coup, moi, ça sera ce gamin-là que je ferai confiance.
Okay,
sauf super. Dans le tome 1, où là, il pète un câble, c'est lui qui tue tout le monde. Mais bon, voilà.
Mais bon, si après. Voilà, donc c'est ça, c'est à la fin. À la fin, tu lui ferais confiance à la fin.
Moralement, je me retrouve bien. Donc, ouais, c'est un excellent bouquin. Voilà, je recommande.
C'est intéressant parce que moi, pas encore dans le jeu vidéo, mais dans le cinéma, je suis en train tout doucement de me dire que j'ai besoin de ce genre d'histoire, c'est-à-dire des histoires où on met vraiment la communauté et le groupe d'individus au centre et plus seulement un individu.
Ouais, ça c'est une bonne réflexion. Et d'ailleurs, c'était le message politique que je voulais dire tout à l'heure. Je sais pas si j'ai le droit de le faire à la radio.
Vas-y, vas-y, bien sûr.
C'est très simple. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une flottille de 100 bateaux qui partent pour bloquer le blocus d'Israël à Gaza ? Donc voilà. Je pense que maintenant vous êtes au courant et envoyez-leur de la force. Je sais pas comment vraiment, mais j'ai fait ma bonne action là, je crois.
Oui, je vois souvent sur Instagram des alertes parce que Thiago se fait interpeller. Donc Thiago da Silva, je pense qu'il s'appelle, qui est un Brésilien qui fait partie de la flottille et qui a déjà fait partie des précédentes.
Nice.
Et il se fait souvent interpeller par les différentes autorités quand il arrive quelque part. Et effectivement, du coup, ben, le collectif est quand même, on en parle pas encore assez bien, je trouve. Que ce soit même au niveau de la musique, finalement, les groupes de musique, mais ça reste quand même un groupe. Je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment, en termes de collectivité, dans l'art, on a des choses à inventer. Dans les films, tu vois, on dit toujours c'est le film de, en citant une personne.
Mais oui,
il y a des centaines de personnes derrière un film, en fait, mon gars. Donc,
mais ça fait partie aussi d'un système méritocratique où on va mettre la réussite sur une personne
qui et le revenu aussi.
Chose, alors que dans 99% des cas, 99% des cas, c'est un coup de chance qu'il soit là, qu'il ait trouvé les bonnes personnes, etc.
Et qu'elles aient accepté de travailler avec.
Bah oui, et ou alors, que juste il a du pognon et qu'il a pu se le payer, mais du coup, où est le mérite, quoi.
Tout à fait.
Bon, bref, le méritocratie, ça s'est fait. La petite de Gaza, ça s'est fait aussi. Trans Rights are Human Rights, ça s'est fait. Trans International, ça s'est fait.
Ouais.
D'ailleurs, pourquoi je parle de ça? C'est parce que mon éveil politique a été très récent, donc voilà. Mais parce que j'ai découvert un petit jeu récemment qui s'appelle, c'est un jeu sur téléphone qui s'appelle Kingshot, parce qu'il y avait des publicités partout sur mon téléphone, et à un moment je le télécharge, je regarde. Alors le jeu ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dans la pub, hein, bien sûr. C'est un jeu, on va dire, piégeux, et dans lequel on monte à un empire qui doit faire fructifier, quoi.
Ok.
Et ce, via affronter d'autres empires, affronter des monstres, et voilà. Et dans ce jeu, bon, c'est un jeu classique de ressources. Alors, en plus, je veux pas dire que je me suis rendu compte après que c'était un plagiat d'un jeu Steam.
Donc, il y a beaucoup de jeux mobiles finalement.
C'est pas ouf. Bon, après il y a un aspect communautaire et moi en ce moment j'ai besoin d'une communauté, donc du coup j'ai arrêté de donner des sous parce que je payais un petit peu, c'est un peu avec des gacha. Ouais. J'ai arrêté de donner des sous. Par contre, je me suis fait des potes là-dessus, donc voilà, je prends mon. Je fais un peu ma part des choses, quoi.
Tout à fait.
Mais surtout, à un moment dans ce jeu, donc tu fais monter tu fais grandir ta ville, ton armée, tout ça. Et à un moment, t'as une petite aventure sur une île déserte.
Ok.
Où tu, globalement, c'est un peu comment s'appelle Stardew Valley.
Ok, ok.
Et c'est une île qui est couverte par les cactus. Et on te dit, bah les cactus. Il faut qu'on les coupe pour récupérer l'eau qui est dedans pour pouvoir construire des bâtiments, enfin c'est des ressources, quoi.
D'accord.
Et bon, moi, au début, en fait, tu te fais ça, bah oui, tu coupes les bâtiments.
Tu pètes tous les cactus.
Tu pètes tous les cactus. Et à un moment, je me suis dit, mais. Et quand du coup, tu peux porter des arbres, tu fais un peu des décorations. Et à un moment, j'ai dit, mais j'aimerais bien inclure les cactus dans ma décoration parce qu'ils sont chouettes. Tu peux pas les replanter après, une fois qu'ils sont partis, ils sont partis.
Waouh, ok, d'accord.
Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour garder les cactus? Et en fait, tu peux pas. Les cactus, le jeu, c'est pas réfléchi par les développeurs, je pense pas, mais le jeu va couper tous les cactus au fur et à mesure, c'est de manière automatique. Et j'ai découvert hier, j'ai fait tous les tests possibles, les cactus vont disparaître au final. Alors, c'est une grande île, ils ont encore du temps. Mais
Tu as fait partie de la disparition des cactus.
Exactement, et ça m'a fait vachement réfléchir, genre, mais moi j'ai pris. Pourquoi est-ce que les jeux en tout cas celui-là, te forcent à coloniser cette île. Il y a coupé tous les cactus qui sont super mignons. Ils te gênent pas plus qu'autre chose. Genre, ils prennent de la place, tu les coupes, après tu peux construire. Mais une fois que tu as suffisamment pris de place pour construire genre ton restaurant, tout ça, t'as pas le droit de les couper. Donc voilà.
Ouais, c'est vrai que moi j'ai déjà eu ce genre de réflexion aussi avec des jeux de city building et tout ça, Planet Zoo, tu vois. t'aimes bien le fait de construire un zoo parce qu'il y a des beaux lions, mais en attendant, ça te renforce dans l'idée de, on va prendre des animaux, on va les mettre dans des cages.
C'est ça que tu fais avec des animaux, quoi. Tu les butes, tu les manges dans des cages.
C'est ça,
D'ailleurs, ce matin, je suis arrivé au niveau 25 de ma ville, et au niveau 25, tu débloques les pets, genre.
Ouais,
les animaux de compagnie.
Animaux
quoi.
Domestiques,
Et la première chose que tu fais, c'est de capturer un, le mettre dans une cage. Et le dresser.
Ah ben voilà.
Et après, il est tout content, il fait des cœurs, tout ça. Alors, ils sont très mignons, hein. Mais en fait, avec cette histoire de cactus, du coup, j'ai créé d'ailleurs une alliance basée sur le respect des cactus.
Ouais.
Okay. Alors, ça prend bien, les gens aiment beaucoup.
Trop cool.
On peut pas les sauver, mais au moins, on peut avoir la mémoire de ces cactus.
Oui, c'est ça. Trop bien.
Et donc, voilà. Et maintenant, je n'arrive plus à jouer à des jeux sans voir ce côté colonisateur qui imprègne quasiment tout.
Ben oui, écoute.
Et je recommanderais d'ailleurs la critique de je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que j'ai écouté un react de cette critique de Troublant Acide sur le jeu récent, très connu, Clair Obscur.
Ouais.
Qui parle un peu de ça, quoi.
Tout à fait, effectivement. En tout cas, on va terminer là-dessus, mais effectivement, comme on en a dit, on a eu trois personnes et chacune est venue parler de pourquoi c'est important de créer, mais aussi de se poser la question de comment on crée, pourquoi on crée, avec qui on crée, qui ça rassemble, quelles idées ça rassemble. Donc, merci Artemis pour cette intervention. Donc, c'est l'émission Dans le Rétro. On est sur Radio Campus.
Radio Campus.
On est le samedi 4 avril et je ne sais pas si tu veux repasser une fois, tu seras
avec bienvenue. Plaisir. Est-ce que je peux faire un petit chatote à ma pote Barbara qui fait de la radio aussi?
Bien sûr.
Super,
ben écoute. Shoutout à Barbara. On vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, un bon week-end et on se dit à la prochaine fois.
Ciao.
Bonne fin de journée à tous et toutes. Au revoir.